Bien, eh bien, nous allons commencer séance du jeudi 19 décembre consacrée à la lecture de l'Esprit des lois. C'est notre quatrième séance consacrée à cette lecture. Alors, évidemment, avant de commencer et avant de poursuivre cette lecture, je crois qu'il est nécessaire de rappeler brièvement ce que nous avons vu en lisant le chapitre 2 du premier livre, la fois précédente. Alors, la lecture de ce chapitre nous a montré qu'on ne pouvait pas tirer de l'hypothèse de l'état de nature et des lois naturelles les conclusions qu'en tirent les philosophes qu'on appelle les philosophes du droit naturel moderne. Thomas Hobbes, John Locke, comment il s'appelle encore, un Allemand, Pufendorf, etc., etc. Si on conçoit rigoureusement l'hypothèse de l'état de nature, on voit que c'est un état où l'homme vit comme un animal craintif, soucieux uniquement de sa conservation, incapable de raisonner, incapable d'agresser ses semblables, car il ne peut pas avoir, je cite Montesquieu, l'idée de l'empire et de la domination. Quant aux lois de nature, aux lois naturelles, qui sont mises en avant par ces philosophes, eh bien, ne peuvent pas être des prescriptions de la raison, contrairement à ce qu'ils disent, elles n'expriment que des tendances animales. En conséquence, on ne peut pas partir de l'hypothèse de l'état de nature pour expliquer l'organisation juridique de la société. L'état de nature n'est pas, contrairement à ce que prétend le philosophe Thomas Hobbes, un état de guerre de tous contre tous qui contraint les hommes à s'associer par un contrat afin d'y mettre un terme et d'instituer une autorité politique chargée d'assurer la paix. Mais donc, s'il est vrai que l'état de nature est au contraire un état de paix, c'est ce que pense Montesquieu. S'il est vrai que les hommes vivent en paix aussi longtemps qu'ils sont faibles et réduits à une vie animale, à partir d'un certain degré de socialisation qui entraîne un développement des connaissances, eh bien, naît en eux un sentiment de force qui les incite à se combattre. C'est alors qu'il va être nécessaire d'instaurer des lois pour mettre un frein à ces conflits et permettre aux hommes de vivre en sécurité. Mais vous aurez compris que, pour Montesquieu, cette nécessité s'impose parce que les hommes ne vivent plus à l'état de nature, mais parce qu'ils vivent en société. C'est l'état social qui engendre la guerre et qui appelle le droit comme remède à la guerre. Alors, comme on l'aura remarqué en lisant aussi le début du chapitre 3, puisque c'est ce que nous avons fait la dernière fois, Montesquieu n'évoque pas l'idée de contrat social, qui est présentée par les philosophes du droit naturel moderne comme le moyen de sortir de l'état de nature et d'instituer un état civil qui permette aux hommes de vivre en paix. Certes, comme on l'a vu en lisant le texte, en présentant la formation des sociétés comme l'union des volontés individuelles. C'est comme ça que Montesquieu présente la formation des sociétés, comme l'union des volontés individuelles. Montesquieu semble évoquer l'idée de contrat social, mais il n'y fait aucune référence explicite. Vous n'avez pas la notion de contrat social. Et surtout, il ne dit rien de précis sur l'acte même de cette union, c'est-à-dire sur l'acte d'association par lequel chacun des individus renonce volontairement avec les autres au droit de se gouverner lui-même et transfère ce droit à une autorité souveraine qui dispose alors du droit de gouverner au nom de tous. Parce que c'est comme ça, par exemple, que pour Hobbes se présente le contrat social comme un acte par lequel je m'associe avec les autres hein, pour transférer le droit que j'ai de me gouverner moi-même sur, au fond, celui qui détiendra l'autorité et qui gouvernera au nom de tous. Donc, vous avez, on peut le dire, un effacement de l'idée de contrat social. Et cela n'a rien d'anodin, parce que cet effacement révèle d'une part que, pour Montesquieu, la question de l'origine de la société, au fond, c'est un faux problème. De fait, on se trouve toujours déjà dans des sociétés qui sont organisées selon des institutions, selon des lois. Et d'ailleurs, comme il l'a dit dans la préface, le législateur n'est jamais dans la situation de l'origine où il aurait à tout inventer. Le législateur, si vous voulez, se trouve dans une situation qui a déjà une histoire, hein, où il y a déjà des institutions, il y a déjà des lois, et il lui appartient seulement de proposer des changements à ce qui a été déjà institué avant lui. Il ne part jamais une situation zéro. D'autre part, l'éclipse de l'idée de contrat social indique que Montesquieu, et c'est ça que je vais surtout souligner, que Montesquieu diverge des philosophes du droit naturel moderne dans sa manière de poser le problème de l'établissement des lois. Il va changer de problématique. Il va changer de manière de poser le problème politique. Il va, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, il va substituer à la question du fondement de l'autorité politique et des lois, qui est la question centrale des philosophes du droit naturel moderne, il va substituer donc à la question de ce fondement la question de la convenance des lois à la disposition particulière d'un peuple. Alors, c'est ça que je voudrais présenter. Donc je reviens sur la problématique qui est celle des philosophes du droit naturel. On l'a déjà vu, mais je la représente. Le problème essentiel qu'il faut résoudre pour ces philosophes se formule de la manière suivante, par deux questions, si vous voulez. Première question, pourquoi est-il d'abord nécessaire d'instaurer une autorité politique chargée d'établir les lois afin de gouverner la société? Qu'est-ce qui la rend nécessaire? Qu'est-ce qui rend nécessaire cette institution? Ça, c'est la première question. Donc, on se sert de l'état de nature, etc., le contrat social, pour expliquer tout ça. Deuxième question, à quelles conditions cette autorité politique est-elle légitime? À quelles conditions est-elle légitime? Ou, si je reprends la question d'une autre façon, à quelles conditions est-il légitime d'obéir à cette autorité? Voilà, c'est comme ça que la question se pose. Et le contrat social, il explique non seulement le passage de l'état de nature à l'état civil, mais il fixe également la norme de légitimité à laquelle doit se conformer l'autorité politique pour que les lois qu'elle établit soient justes. Vous voyez ? Il y a une norme de légitimité qui est fixée par le contrat social et qui va permettre de concevoir la norme. Hein, donc, le contrat social va permettre de concevoir la norme à laquelle, au fond, l'autorité politique doit se conformer pour que les lois qu'elle va édicter soient justes. Alors, sur ce point, il peut y avoir des divergences entre les philosophes du droit naturel moderne, car ils ne conçoivent pas tous de la même manière, on l'a déjà dit, ce qu'ils appellent les lois de nature, qui leur servent de normes. Il y a des divergences entre eux. Alors, je reviens très brièvement sur ce que nous avions déjà dit, mais c'est utile. Pour le philosophe Thomas Hobbes, hein, dont le grand livre, c'est le Léviathan, la loi naturelle, c'est un impératif de la raison qui exige qu'on calcule les moyens de vivre en sécurité. C'est-à-dire qu'il faut, chaque individu, va calculer les moyens de sortir d'état de nature, où il est exposé effectivement à la mort. Donc chacun, étant confronté à cette situation, chacun va avoir intérêt à sortir de cet état en concluant avec les autres un accord, qui s'appelle le contrat social. Et le seul moyen donc d'en finir avec l'état de guerre de tous contre tous, donc, c'est d'instaurer d'un commun accord une autorité politique qui va disposer d'un pouvoir absolu et qui aura ainsi les moyens de se faire craindre de tous. Voilà, c'est ça la solution de Hobbes, hein. Instaurer un pouvoir absolu, hein, qui aboutit à ce que les individus sont tous, en quelque sorte, soumis, sans discussion, à son autorité. Et donc, ce pouvoir est en mesure de se faire craindre de tous. Et c'est parce qu'il se fait craindre de tous, bah, qu'il assure la sécurité. C'est la solution. Dès lors, et les lois qui sont établies par le souverain, celui qui détient l'autorité politique, les lois qui sont établies par le souverain sont considérées comme justes du seul fait que le souverain, que l'autorité politique en a décidé. Vous voyez, c'est ça la solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice au-dessus du souverain, c'est lui qui décide de ce qui est juste. Et juste ce qu'il déclare juste. Voilà. Pour le philosophe John Locke, la loi naturelle n'a pas le même sens. C'est une obligation morale qui exige de l'autorité politique qu'elle respecte les droits naturels des individus, c'est-à-dire leur vie, leur liberté, leur propriété. Ça veut dire que l'exercice ici du pouvoir est limité. Il est astreint à des limites. Il doit respecter des limites. Sinon, il est contestable. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même optique. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les divergences entre les philosophes du droit naturel moderne, tous mettent l'accent sur la souveraineté de l'autorité politique. Le grand mot qui est prononcé, c'est le terme de souveraineté. Vous voyez, la souveraineté, c'est le pouvoir de décider. De pouvoir de décider des lois, et l'autorité politique détient ainsi la souveraineté, quelle que soit cette autorité. Et parler en termes de souveraineté, bah, c'est parler en termes de volonté. C'est parler en termes de volonté. C'est-à-dire que la question est de savoir, pour ces philosophes, ce qui autorise cette volonté à commander. Qu'est-ce qui autorise la volonté du souverain à commander, à promulguer des lois? Et corrélativement, qu'est-ce qui nous oblige, nous, à lui obéir? C'est ça la question centrale pour eux, tout le temps. Et dès lors, le problème de la forme du gouvernement, est-ce qu'il faut une monarchie, est-ce qu'il faut une démocratie, ou autre chose encore, eh bien, ce problème est un problème mineur pour ces philosophes. Vous voyez ? Le problème essentiel, c'est celui de la souveraineté. Et le problème, au fond, de la forme de gouvernement, c'est un problème mineur. Alors, je prends encore une fois comme référence Thomas Hobbes. Dans son chapitre 19 du Léviathan, et je vous ai photocopié d'ailleurs un extrait du texte, on va le voir ensemble. Eh bien, pour Thomas Hobbes, donc, l'essence de ce qui fait un pouvoir politique, donc la souveraineté, elle est toujours la même. Elle est toujours la même, quelle que soit la forme du gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas moins, dans une démocratie que dans une monarchie. Le problème se pose de la même manière, quel que soit le régime, quelle que soit la forme de gouvernement. Et Hobbes va jusqu'à écrire, c'est ce que nous allons voir, que toutes ces appellations négatives en termes de tyrannie, d'oligarchie, tous ces termes qui sont négatifs, hein, qui sont péjoratifs, eh bien, n'expriment en fait que l'aversion que l'on a pour un gouvernement. On l'appelle tyrannie parce qu'il nous déplaît. Voilà. Et on l'appelle oligarchie tout simplement parce qu'il nous déplaît. Eh bien, lisons ensemble, si vous voulez, ce qu'en dit Hobbes. C'est le texte qui se trouve page 2, Je vous ai photocopié le début du chapitre 19. On ne va pas tout lire, hein. Vous lirez ça à tête reposée. Lisons, si vous voulez, à partir de la ligne 25. C'est le deuxième paragraphe. Ligne 25. Alors, bon, allez, disons à partir de la ligne 23. Dans les ouvrages d'histoire et de politique, on trouve d'autres noms de gouvernement comme tyrannie, oligarchie. Mais il ne s'agit pas ici des noms d'autres formes de gouvernement, mais des mêmes formes que l'on nomme ainsi quand on ne les aime pas. Ceux, en effet, qui ne sont pas satisfaits de vivre sous une monarchie l'appellent tyrannie, et ceux à qui l'aristocratie déplaît, ben, ils l'appellent oligarchie. Voilà. Alors, on verra qu'il fait référence, mais je ne le dis pas encore, j'expliquerai ça plus tard, à la typologie des gouvernements établie par Aristote, mais qui distingue des formes droites de gouvernement et des formes déviées, mais je n'en parle pas encore. Et dit, par exemple, Aristote dit que la tyrannie, c'est une déviation de la monarchie. C'est une forme dégénérée de la monarchie. Or, pour Hobbes, cela n'a aucun sens. En fait, c'est une question de goût, c'est une question de préférence. Quand on n'aime pas une monarchie, ben on va considérer que c'est une tyrannie. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'il traite la question. Alors, après, dans le même chapitre, il montre que, d'un point de vue pratique, la seule question qui se pose, c'est la question de savoir quelle est la forme du gouvernement la plus efficace pour exercer la souveraineté. C'est-à-dire que là, on peut effectivement hiérarchiser un peu les formes de gouvernement, et pour lui, la forme la plus efficace, celle qui permet le mieux d'exercer la souveraineté, c'est la monarchie. Mais enfin, on pourrait très bien avoir une démocratie, le problème se poserait dans les mêmes termes. Vous voyez, pour lui. Donc la question de la forme du gouvernement est une question mineure. Alors Montesquieu, voilà, c'est là. Vous voyez l'originalité de Montesquieu, la différence de Montesquieu, c'est qu'il va renverser l'ordre des priorités qui était celui des philosophes du droit naturel moderne. Ce qui pour eux est une question mineure devient la question importante. Et là, je vous renvoie au texte, parce que c'est dans le chapitre 3, page 1. J'ai souligné le passage, ligne 50. Ligne 50. Là, c'est un passage très important. Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. Alors ça, c'est un passage très important que je vais tâcher de bien expliquer. Alors qu'est-ce que veut dire d'abord le gouvernement le plus conforme à la nature? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on risque ici de faire un contresens. On risque d'interpréter cette formule dans le sens des philosophes du droit naturel moderne. Parce que si on l'interprète comme l'entendraient les philosophes du droit naturel moderne, on dirait que le gouvernement le plus conforme à la nature, c'est celui qui, au fond, est le plus conforme à la nature humaine. Celui qui se conforme aux règles d'un droit naturel qui vaudrait comme des normes universelles auxquelles la volonté du souverain doit se conformer pour établir des lois justes. Vous voyez, on pourrait l'entendre comme ça. Vous voyez, il y a des règles naturelles, des règles de justice naturelles auxquelles la volonté du souverain doit se conformer pour que ces lois, pour que les lois qu'il va édicter soient justes. Donc, vous voyez, on risque de faire ce contresens. On risque d'entendre l'expression dans ce sens-là. Or, si vous lisez la suite de la phrase, vous voyez bien qu'on ne peut pas l'entendre comme ça. Parce que, comme l'explique très bien Montesquieu, le gouvernement le plus conforme à la nature, c'est celui qui convient le mieux au peuple particulier pour lequel il est établi. Celui qui convient le mieux à ce peuple-ci, en raison justement de sa particularité. Ainsi, et ça c'est très important, les lois d'un tel gouvernement, c'est-à-dire les lois qui organisent sa forme de gouvernement, les lois qui font qu'il est une monarchie ou une république, les lois d'un tel gouvernement ne s'expliquent pas par le fait qu'elles sont voulues par un souverain, par l'autorité politique, mais pour la raison qu'elles se rapportent mieux avec la particularité de tel peuple. Voyez, parce qu'elles sont celles qui conviennent le mieux à ce peuple. Et donc ces lois, et là, souvenez-vous la définition originelle des lois, hein, dès le début de l'esprit des lois, les lois, la loi en général, c'est un rapport nécessaire qui dérive de la nature des choses. Eh bien ici, les lois dont il doit s'agir, les lois qui font que ce gouvernement est une monarchie ou une république, eh bien ce sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature particulière d'un peuple. Vous voyez ? Le gouvernement qui est conforme à la nature, c'est celui qui est conforme à la nature particulière d'un peuple. Vous voyez ? Dès lors, la question essentielle, ce n'est plus de savoir si elles sont conformes à des normes universelles, à des règles de justice considérées comme naturelles, qui permettent de dire à quelles conditions un gouvernement est légitime et à quelles conditions les lois qui les dictent sont justes. Il ne s'agit plus de ça. Mais la question essentielle, c'est d'examiner comment telle forme de gouvernement peut s'adapter à la situation particulière de ce peuple. Vous voyez, la question essentielle pour Montesquieu, c'est celle-là. Comment telle forme de gouvernement, avec les lois qui vont avec, conviennent à ce peuple, donc s'adaptent à la situation particulière de ce peuple. C'est ça le problème majeur. Et donc s'il faut tenir compte de la diversité de ce que Montesquieu appelle les dispositions des peuples, il parle de la disposition particulière d'un peuple, donc s'il faut tenir compte de la disposition particulière d'un peuple pour établir des lois, pour établir un type de gouvernement, eh bien, il est à ce moment-là impossible de savoir a priori quelle forme de gouvernement est la meilleure, dans l'absolu. Il n'y a pas de forme de gouvernement qui soit la meilleure dans l'absolu, puisque tout va dépendre, voyez, de la situation particulière de tel peuple. On ne peut pas parler du meilleur gouvernement, comme s'il y avait un meilleur gouvernement qui valait pour tous les peuples, en quelque sorte. Vous voyez, ça, c'est une manière de voir les choses qui n'est pas celle de Montesquieu. Vous voyez, par exemple, je prends dans la tradition, Platon considère que le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement des sages, dans l'absolu. Vous voyez, et la forme la pire, la forme la plus dégradée du gouvernement, c'est la tyrannie. Bon, il y a une hiérarchie. Mais il y a un meilleur gouvernement dans l'absolu. Eh bien là, ce n'est pas du tout, bien sûr, de cette façon que Montesquieu présente le problème. D'autre part, il faut également abandonner l'idée qu'il existe des lois justes qui conviendraient indifféremment à tous les peuples. Hein, il n'y a pas de loi juste qui convienne indifféremment à tous les peuples, puisque, comme l'écrit Montesquieu, regardez la phrase qui vient après, regardez ligne 62, plus loin, hein, ligne 62, les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Il y a des lois qui sont vraiment justes pour ce peuple, mais qu'on ne peut pas comme ça extraire et puis appliquer à un autre peuple. Comme ça, sans tenir compte de la particularité de cet autre peuple. Et dans cet esprit, d'ailleurs, Montesquieu cite volontiers les paroles du grand législateur grec qui s'appelait Solon, à qui on demandait si les lois qu'il avait données au peuple athénien étaient les meilleures. On lui avait posé cette question. Est-ce que les lois que vous avez conçues pour les Athéniens, ce sont les lois les meilleures? Et voilà ce qu'il avait répondu. C'est le texte numéro 2. Très court extrait. Colonne de droite, au milieu. On demanda à Solon si les lois qu'il avait données aux Athéniens étaient les meilleures. Il répondit, « Je leur ai donné, répondit-il, les meilleures de celles qu'ils pouvaient souffrir. Celles qui leur convenaient. » Voilà. Donc, les lois ne valent que dans le contexte où elles se trouvent. En conséquence, la justice ne peut pas être considérée comme une norme qui surplombe la diversité des situations. Et ici, il faut vraiment bien en comprendre les raisons. C'est ce que je voudrais vous expliquer. Parce qu'on pourrait toujours objecter à Montesquieu ce qu'il a dit dans le premier chapitre du premier livre. Qu'est-ce qu'il a montré dans le premier chapitre du premier livre ? Ben, qu'il y a des rapports d'équité, souvenez-vous, qui définissent la justice. La justice, la vraie justice, c'est une justice éternelle, universelle, qui se caractérise par des rapports d'équité. Seulement, c'est vrai, ce que je dis, ce que je rappelle est exact. Seulement, il faut se souvenir aussi de la manière dont il disait les choses. Parce qu'il indiquait également que ces rapports d'équité ne peuvent être découverts qu'en établissant des lois. Je cite exactement sa formule. Il faut avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive, c'est-à-dire la loi établie. Il faut avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit. Cette formulation est intéressante. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire deux choses. D'une part, que, évidemment, ces rapports d'équité existent antérieurement et indépendamment de la loi qu'on établit, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi ? Il dit aussi que c'est en établissant cette loi qu'on les découvre. C'est-à-dire qu'on ne les a pas en tête à l'avance, en quelque sorte. On ne les découvre qu'en établissant des lois. Autrement dit, le législateur ne dispose pas avant d'établir des lois un ensemble de règles universelles, un ensemble de règles universelles de justice qu'il pourrait clairement connaître et qui lui suffirait d'appliquer. Les rapports d'équité qui sont inhérents à l'intelligence du législateur, elles lui permettent de s'orienter, elles lui permettent d'orienter son activité législatrice. Mais le législateur ne peut pas connaître ses règles d'équité avant de légiférer. Il ne peut mesurer, en quelque sorte, la fonction de ses rapports d'équité qu'en légiférant, qu'en établissant concrètement des lois adaptées à un peuple particulier. Et pour bien faire comprendre le rôle joué par les rapports d'équité, souvenez-vous, Montesquieu faisait une analogie entre l'idée de justice et l'idée de cercle. Qu'est-ce qu'il disait ? Il comparait le législateur à un géomètre à qui il suffit d'avoir l'idée de cercle pour tracer des cercles. Eh bien, nous allons voir que cette analogie a des limites. Elle a des limites. Alors, je rappelle d'abord exactement ce qu'il disait. Après, je vous montrerai pourquoi on peut dire qu'il y a des limites dans cette analogie. Il disait la chose suivante. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que se coordonne ou défende les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé deux cercles, tous les rayons n'étaient pas égaux. Vous vous souvenez de cette formule ? C'est-à-dire que l'idée de cercle, elle préside au tracé des cercles. C'est pas en traçant des cercles qu'on invente le fait que tous les rayons d'un cercle sont égaux. C'est l'idée de cercle qui impose, en quelque sorte, au tracé du cercle, cette propriété. Bon. Alors c'est juste. Seulement, cette analogie a des limites. Parce que le législateur n'est pas comme un géomètre, en fait. La raison du législateur, elle est aux prises avec une diversité de situations concrètes qui ont chacune leur propre épaisseur, qui ne sont jamais identiques. C'est-à-dire que le géomètre, quand il trace des cercles, il va les tracer toujours de la même manière. Tandis que là, c'est pas la même chose. Le législateur n'est pas dans la situation du géomètre. Il applique la raison, il applique sa raison à des situations concrètes qui sont toutes différentes. et qui font que les lois ne vont pas être les mêmes, justement. Alors, et comme le montre d'ailleurs très bien, c'est pour ça qu'il faut insister là-dessus, comme le montre la fin du chapitre 3, la situation particulière d'un peuple s'explique par son climat, par la nature du terrain, du pays, par la religion des habitants, par le type de commerce, etc. Vous savez, c'est ce qui est largement expliqué de la ligne 69 à la ligne 76. Hein. Vous voyez, elles doivent être relatives, les lois doivent être relatives au physique du pays, etc. etc. Tout le paragraphe hein, qui suit, là, montre bien ce qui fait que chaque peuple a une disposition particulière. Hein. Ça tient au climat, ça tient à la religion, hein, tous ces facteurs. Et donc le législateur doit prendre en compte tous ces facteurs, tous ces différents facteurs, quand il légifère pour un pays donné. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il n'est pas dans la situation du géomètre. Bon. Et voilà pourquoi il n'est pas possible de considérer la justice de manière générale comme une norme universelle qu'il suffirait d'appliquer. Vous voyez ? Et voilà pourquoi aussi on va trouver à la fin du chapitre 3 du livre 1 une nouvelle définition de la loi qui ne la subordonnera plus à ce que Montesquieu appelait la raison primitive, mais définition de la loi qui la rattachera à la raison humaine en tant qu'elle s'applique à des cas particuliers. Alors, rappelez-vous ce que c'est que la raison primitive. C'est la justice divine, en quelque sorte, la raison primitive, qui ordonne l'univers, qui a une dimension cosmologique. Hein, c'est celle dont il était question dans le premier chapitre. Bon, eh bien, là, on abandonne ce cadre cosmologique, cette référence à la justice divine, à la raison primitive, et on définit désormais la loi par rapport à la raison humaine. La raison humaine en tant qu'elle légifère dans des situations qui sont toujours particulières et différentes les unes des autres. Et c'est pour ça que vous avez cette définition, alors, ligne 58, alors très importante, la définition de la loi. J'ai souligné le passage. La loi en général et la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Donc, la loi humaine, donc c'est la raison en tant qu'elle s'applique. Elle a une diversité de situations. Donc c'est toujours la raison qui intervient dans toutes les situations. Hein. Mais elle intervient de façon toujours différente, puisqu'elle s'applique à des cas qui sont toujours particuliers. Vous voyez ? En tant que la raison humaine est le produit de la raison primitive, hein, la raison humaine trouve en elle les fameux rapports d'équité qui orientent, hein, qui lui permettent d'orienter son activité. C'est-à-dire que la raison humaine, elle a un rapport avec la raison divine, puisqu'elle est, elle est en un sens le produit de la raison divine. Hein. Là, vous vous souvenez de ce que disait Montesquieu dans le premier chapitre, c'est-à-dire que les êtres intelligents, comme l'homme, découvrent dans leur intelligence les fameux rapports d'équité. Et ces rapports d'équité, bah, évidemment, ils interviennent dans l'activité législatrice du législateur. Hein. Ils orientent cette activité. Mais la raison humaine ne peut plus reposer simplement sur cette raison supérieure. Elle est désormais condamnée à inventer par elle-même des lois. Elle est condamnée à œuvrer par elle-même, à inventer des lois en situation. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a un déplacement. Vous voyez, il y a un contraste entre le premier chapitre et le troisième chapitre. Le premier chapitre, il y avait un cadre cosmologique qui, d'ailleurs, vous avez déconcerté. Hein. On parlait du monde, des différents êtres qui constituent le monde, etc. Là, on est uniquement dans l'humain. Et on a affaire à des lois seulement humaines. Et à partir du moment où les lois sont l'affaire des hommes, et bien évidemment, on va être dans la particularité. L'homme va être condamné à, à inventer en situation, voyez, des lois qui conviennent à un peuple. Hein, il ne pourra pas simplement se reposer sur ces rapports d'équité dont on parlait au départ. Donc vous voyez que la loi, la raison humaine s'applique, comme dit Montesquieu, s'applique à une diversité de contextes, ce qui ne veut pas dire qu'elle leur applique indifféremment un modèle universel préalable. Hein. Quand je dis qu'elle s'applique, ça ne veut pas dire qu'elle s'applique de la même manière. Elle s'applique, ça ne veut pas dire qu'elle applique un modèle. Vous voyez, elle s'applique, elle invente à chaque fois, finalement, un type de législation en fonction d'un peuple particulier, dans une situation particulière. Et pour juger de la valeur des lois positives qui sont établies, eh bien, il faut en conséquence évaluer les efforts que fait la raison humaine pour légiférer, pour s'ajuster à la disposition particulière du peuple pour lequel ces lois sont établies. Et quand Montesquieu, je reprends la formule dans la définition de la loi, quand il dit « la loi en général et la raison humaine, etc., etc., et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine », dire que ces lois ne doivent être que les cas particuliers où s'applique la raison humaine, bah, c'est dire qu'elles ne sont pas toujours valablement l'application de la raison humaine. Il y a des cas où c'est pas bon. Hein ? Elles doivent être, ça veut dire qu'elles ne le sont pas toujours. Elles doivent être. Il faut que la raison humaine fasse effort pour s'ajuster à une situation, mais elle n'y arrive pas bien toujours. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'examen des lois n'exclut pas le jugement. C'est-à-dire que on ne peut pas, comme je l'avais dit déjà, on ne peut pas assimiler la réflexion de Montesquieu à celle d'un sociologue qui se contenterait d'expliquer. Non, l'examen des lois n'exclut pas un jugement de valeur sur la manière dont ces lois ont été faites pour s'ajuster à la disposition particulière d'un peuple. Vous voyez, ici, l'examen n'est pas une pure et simple explication. Il conjugue l'explication et le jugement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, pour comprendre les lois, ben, il va falloir combiner deux exigences. C'est ce que dit Montesquieu à la fin du chapitre. Il faut combiner deux exigences. D'abord, première exigence, on ne peut pas séparer les lois politiques des lois civiles. Mais on va mieux comprendre ça ensuite. On ne peut pas séparer les lois civiles des lois politiques. Elles ont un lien. Elles forment un tout. Ça, c'est la première exigence. Et la deuxième exigence, pour comprendre les lois, eh bien, il faut saisir le lien qu'elles ont avec l'ensemble des facteurs qui caractérisent la situation particulière d'un peuple. Alors, je reviens sur le premier point. Premier point, regardez bien ligne 54. Ligne 54, colonne de droite. Je n'ai point séparé les lois politiques des civils. Je n'ai point séparé les lois politiques des civils. Car en fait, ici, Montesquieu serait en désaccord complet avec la façon dont les études de droit sont organisées, par exemple, aujourd'hui. Hein, vous avez des spécialités, vous avez le droit civil, vous avez le droit administratif, le droit, etc. Bon, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas un peu compartimenter, mais pour Montesquieu, ce compartimentage a ses limites, parce qu'il y a un lien entre les différentes formes de droit. Il y a un lien entre les lois politiques et les lois civiles. On ne peut pas séparer. On ne peut pas faire du droit, vous voyez, on ne peut pas séparer le droit en plusieurs matières indépendantes. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, évidemment, c'est ça qui est le plus important, les lois ne sont pas indépendantes des enjeux sociaux, politiques, économiques qui traversent une société, c'est-à-dire le climat, la religion, etc., tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui constitue la particularité d'une nation. C'est-à-dire que là, on ne peut pas faire du droit une science autonome. Le droit, ce n'est pas une science autonome. C'est une science qu'il faut concevoir en rapport avec l'économie, avec la politique, avec l'histoire, etc. Voilà, c'est impossible de traiter le droit de cette façon-là. Et comprendre les lois, c'est prendre tous les rapports, tous ces rapports dont je viens de vous parler, tous ces rapports ensemble. C'est-à-dire, comprendre les lois, c'est, comme l'explique Montesquieu, s'élever à l'esprit des lois. Et qu'est-ce que c'est que avoir l'esprit des lois? C'est avoir l'intelligence de l'ensemble des rapports qui explique la singularité d'une nation, la singularité d'un peuple. C'est ce qu'on avait déjà montré. Hein, c'est-à-dire que tous les rapports, c'est-à-dire la religion, le climat, enfin tous ces rapports dont on peut faire la liste, hein, eh bien, il faut les prendre ensemble. Et au fond, l'esprit des lois, c'est le tout, hein, c'est la totalité des vues qu'on peut avoir ici sur la singularité d'une nation et qui permet d'expliquer, effectivement, quelle est telle ou telle loi. Alors, là, par exemple, vous avez une formule très importante dans le texte, ligne 79-80. C'est dans toutes ces vues, vous voyez, c'est dans toutes ces vues, dans tous ces rapports, hein, dans toutes ces vues qu'il faut les considérer, donc les lois. Toutes, c'est évidemment l'adjectif important, c'est toutes ces vues. Hein. Il faut considérer les lois dans, ensemble, dans tous ces aspects, pas seulement un, pas seulement la religion, pas seulement l'économie, pas seulement, mais l'ensemble, il faut voir comment ça s'articule. Vous voyez. Et puis, vous avez plus loin, regardez bien, ligne 82-83, hein, j'examinerai tous ces rapports, ils forment tous ensemble ce que l'on appelle l'esprit des lois. Vous voyez, l'esprit des lois. Alors attention à la formule l'esprit des lois, parce que c'est souvent très mal compris. On s'imagine que l'esprit des lois, c'est un peu l'esprit comme ce qui s'oppose à la lettre, vous voyez. La lettre, quand on dit qu'il faut savoir interpréter l'esprit d'une loi, ça veut dire qu'il faut en fait se mettre à la place du législateur, il faut se mettre à la place de son intention, il faut entrer dans ses intentions. C'est pas ça ici, hein. Ça c'est une explication, c'est une lecture qui serait... pas totalement fausse, mais qui serait très insuffisante. C'est-à-dire que, évidemment, ici, l'esprit des lois, c'est l'ensemble des rapports qui expliquent que les lois d'un pays soient telles ou telles, c'est tout. Vous voyez, c'est l'ensemble des rapports, pas seulement l'intention du législateur. Alors, donc la fin du chapitre présente le plan d'ouvrage, donne une idée du plan d'ouvrage. Il n'y a pas exactement un plan, enfin, je ne vais pas me lancer dans l'explication, mais... Il n'y a pas exactement un plan de l'esprit des lois. Vous pouvez le prendre sous plusieurs rapports. Hein. Mais il y a tout de même un ordre général. Et je dirais qu'on peut distinguer trois niveaux d'analyse. Je les présente rapidement. Vous avez d'abord une analyse générale où seront examinées les lois dans leur rapport avec les structures politiques, c'est-à-dire avec les types de gouvernement. Vous voyez, c'est une analyse générale qui met en rapport donc les lois avec un certain type de gouvernement. Est-ce que c'est ici une monarchie, une république, un gouvernement despotique? Quelles sont les lois qui conviennent à ce type de gouvernement? Vous voyez, c'est ça cette réflexion. Hein. Et on peut dire que les premiers livres, jusqu'au livre 13, mais surtout jusqu'au livre 8, finalement abordent les lois sous cet angle. Selon cette analyse générale qui concerne les différents types de gouvernement. Et puis, à partir du livre 14, l'analyse va prendre en compte les facteurs qui expliquent la particularité des nations, à commencer par le climat. À partir du chapitre 14 et du livre 14, Montesquieu s'intéresse à ce qui explique la diversité des peuples, la diversité des nations. Qu'est-ce qui fait que les Français sont des Français? Qu'est-ce qui fait que les Chinois sont des Chinois? On va commencer par le premier facteur le plus important, qui est le climat, qui va déterminer la sensibilité, le caractère, les mœurs d'un peuple. Vous voyez, c'est le premier grand facteur qui permet de particulariser un peuple. Donc, vous voyez, c'est une approche de cet ordre-là à laquelle vous avez affaire à partir du livre 14. Et puis, les trois derniers livres, il y a un troisième ensemble de livres, mais qui a été rajouté à la fin par Montesquieu, parce qu'au départ, il n'avait pas compté publier ces livres. Ce sont les livres 27 à 31, les trois derniers livres. Ils sont consacrés à l'étude des lois romaines et féodales qui constituent l'héritage du passé. Alors ça, c'est vraiment un travail d'historien que mène Montesquieu, qui est assez érudit. Il s'intéresse beaucoup aux droits romains, aux lois féodales, aux francs, etc. Et vous avez des exemples absolument incroyables. Et donc, effectivement, pourquoi s'intéresse-t-il ici à l'histoire? Parce que, d'une certaine façon, ce que nous sommes hérite de cette histoire, hein, évidemment. Donc, c'est une partie historique, hein, qui est ajoutée juste à la fin par Montesquieu au moment de la publication de son livre en 1748. Bon, donc voilà. On en arrive à la seconde partie. Deuxième partie, donc, la question va être de savoir comment les lois doivent être conçues pour organiser et conserver un gouvernement. Alors, petite précision de vocabulaire. Aujourd'hui, sur le terme de gouvernement, aujourd'hui, un gouvernement, on entend par là le pouvoir exécutif. Ça, c'est un sens moderne, qui d'ailleurs est hérité de Rousseau. C'est Rousseau qui parle du gouvernement en ces termes-là. Mais le gouvernement, au sens traditionnel, depuis l'Antiquité, c'est au fond ce qui est synonyme de l'État. L'État dans son ensemble, vous voyez ? L'organisation du pouvoir politique dans son ensemble, pas seulement l'exécutif. Mais il faut faire attention, parce que ça peut vous induire en confusion. Hein, donc il faut préciser les mots. Alors, si je m'en tiens à ce qu'écrit Montesquieu dans le chapitre 3, regardez bien, lignes 65 à 68, en haut. Regardez ce qu'il dit des lois politiques et civiles. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi, ou qu'on veut établir, soit qu'elles le forment, comme le font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent, comme le font les lois civiles. Alors ça, c'est ce que nous allons comprendre au fur et à mesure. Les lois politiques, ce sont les lois qui forment un gouvernement, qui font qu'il est, par exemple, une monarchie. Ce qu'on va appeler les lois fondamentales, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la Constitution. Et puis les lois civiles, ce sont les lois qui définissent les rapports entre les citoyens, qui façonnent les mœurs. Hein ? Et donc le droit civil, hein, si vous voulez, c'est ça. Étant entendu, bien sûr, que ce sont deux domaines qui ne sont pas étanches. Hein. On ne peut pas les séparer de façon absolue. Bon. Et c'est les lois civiles qui contribuent à maintenir le gouvernement. Vous voyez ? Les premières forment le gouvernement, les deuxièmes maintiennent le gouvernement. Bon. Donc, voilà ce qu'il faut montrer. Voilà ce dont nous allons parler, hein, des lois politiques et des lois civiles. Dans la mesure où il faut prendre en compte la disposition particulière d'un peuple pour établir un gouvernement, je vous ai dit, on ne peut pas parler dans l'absolu du meilleur gouvernement. Hein, vous vous rappelez cela. Donc, le bon gouvernement, c'est-à-dire celui qui convient, il peut être démocratique, aristocratique, monarchique, selon les circonstances. Vous êtes d'accord ? Bon. Mais avant de savoir lequel convient à ce peuple, en fonction de circonstances qui sont toujours singulières, eh bien, il va falloir examiner la pluralité des formes de gouvernement qui peuvent exister. Il faut d'abord examiner les différents types de gouvernement qui peuvent exister. Et après, on pourra savoir lequel convient à ce peuple. Et donc, ici, Montesquieu, vous allez, page 3, il va distinguer trois espèces de gouvernement, trois types de gouvernement. Regardez bien le chapitre 1er du livre 2, c'est le texte numéro 7, en haut à droite. Il y a trois espèces de gouvernement, le républicain, le monarchique et le despotique. Trois gouvernements. On va commenter tout cela de façon méthodique et progressive. Et pour les distinguer, Montesquieu utilise deux critères. Deux critères. Le premier critère, c'est le plus simple, c'est celui du nombre de gouvernants, du nombre de ceux qui gouvernent. Et puis le deuxième, c'est la manière de gouverner. Mais parlons d'abord du premier. Bon, c'est la distinction la plus simple. Et comme le remarque Montesquieu, voyez par exemple ce qu'il dit dans la seconde phrase, pour en découvrir la nature, donc la nature de chacun des gouvernements, il suffit de l'idée qu'en ont les hommes les moins instruits. On va se référer tout simplement à l'expérience que tout un chacun a de la question. On n'a pas besoin de grandes réflexions pour discerner ici le républicain, du monarchique, du despotique. Alors, avec une telle distinction, Montesquieu s'inscrit dans une tradition très ancienne qui remonte à Athènes au début du 5e siècle, à Hérodote, où l'on distinguait trois sortes de gouvernements en fonction du nombre des gouvernants. Je vais vous dire des choses très simples, mais il faut les rappeler. Là où tous, ou si ce n'est pas tous, le plus grand nombre gouvernent, on a affaire à une démocratie. Là où c'est soit le petit nombre, soit les meilleurs qui gouvernent, on parle d'oligarchie ou d'aristocratie. Là où un seul gouverne, il s'agit d'une monarchie ou d'une tyrannie. Vous voyez, ce sont les termes employés. Et comme la tradition, eh bien, ici, Montesquieu distingue trois espèces de gouvernement. Dans la tradition, on distingue toujours trois espèces de gouvernement. Mais vous noterez qu'il regroupe la démocratie et l'aristocratie sous une même espèce qui est celle du gouvernement républicain. Parce que c'est ce qu'il va expliquer après. La démocratie et l'aristocratie sont pour lui deux formes du gouvernement républicain. Noterez ça. Et de telle sorte que dans sa distinction entre les formes de gouvernement, de telle sorte qu'il y a d'un côté le gouvernement républicain qui est le seul finalement où il y a plusieurs gouvernants, et puis face au gouvernement républicain, vous avez le gouvernement monarchique et puis le gouvernement despotique qui ont en commun d'être des gouvernements d'un seul. Parce que dans la monarchie et dans le gouvernement despotique, un seul gouverne. Vous voyez comment les choses se présentent, si vous voulez, dans la typologie de Montesquieu. Alors bien sûr, l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi. C'est de comprendre pourquoi Montesquieu opère ce genre de transformation. Pour l'instant, je vous signale cette transformation, mais je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi il se livre à cette transformation, pourquoi il opère ce changement. En attendant, selon le critère du nombre, la République, donc, comme je vous l'ai dit, peut être de deux formes différentes. Donc, alors, je lis le texte. Le gouvernement républicain, c'est en italique, est celui où le peuple encore, donc en totalité, où seulement une partie du peuple a la souveraine puissance. Donc, vous avez deux possibilités. Soit le peuple encore exerce le gouvernement, détient la souveraine puissance, et ça, c'est la démocratie. Donc, la démocratie, si vous voulez, c'est la forme la plus pure de la République. Et puis, vous avez l'aristocratie, où une partie seulement du peuple exerce la souveraine puissance. Donc là, il y a une élite qui gouverne. Vous voyez ? Bon, mais dans les deux cas, il s'agit d'une république, même si ce n'est pas tout à fait la même. Toutefois, vous vous en doutez, le critère du nombre est insuffisant. Il va falloir lui adjoindre un autre critère, qui va concerner cette fois-ci la manière de gouverner. Parce que si on en restait aux critères du nombre, rien ne permettrait de distinguer le gouvernement monarchique du gouvernement despotique. Puisque dans les deux cas, un seul gouverne. Donc le deuxième critère va permettre, en revanche, de lever toute confusion. Et là, regardez bien ce qui est dit du monarchique. La suite. Le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies, au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Alors, ça, c'est un passage très important. Donc, il faut distinguer un gouvernement qui a des lois, et si on est plus précis encore, des lois fixes et établies. Ça, c'est le gouvernement monarchique. Il faut distinguer ce gouvernement qui a des lois fixes et établies d'un gouvernement sans loi, où ce qu'on appelle loi n'est pas véritablement une loi, hein, puisqu'elle change selon le caprice ici du despote, hein, et sa volonté, effectivement, décide arbitrairement, hein, de la loi, donc ce n'est pas vraiment une loi. Et vous voyez que cette distinction entre la monarchie et puis le gouvernement despotique va être extrêmement importante, parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'elle va être au centre de toute l'argumentation de Montesquieu dans l'esprit des lois. C'est-à-dire que ici, contrairement, ça il faut bien comprendre ça, contrairement à un despote, un monarque est tenu à ses propres lois. Il est tenu à ses propres lois. Il est tenu de respecter ses propres lois. Il y a une fixité de la loi. Et c'est cette fixité de la loi qui assure, dans la monarchie, une sécurité dont les individus sont totalement privés lorsque le souverain peut à tout instant supprimer ses propres lois et faire dépendre ses sujets de ses décisions instantanées. Vous voyez, dans un gouvernement despotique, les sujets sont à la merci des décisions du souverain qui, à tout moment, peut changer quand ça lui chante. Les règles, les lois. Alors que dans une monarchie, on sait à quoi s'attendre. Il y a des lois fixes. Le souverain ne fait pas tout ce qu'il veut quand il veut et comme il veut. Vous voyez ? Donc, ce critère est très important. Et c'est ce second critère qui concerne la manière de gouverner qui va prendre donc de plus en plus d'importance dans le cheminement de la réflexion de Montesquieu, puisque Montesquieu, finalement, va, en définitive, être amené à opposer deux types de gouvernement. Il va abandonner sa première typologie, selon il y a trois gouvernements, et puis il va de plus en plus, si vous voulez, parler comme s'il n'y avait que deux types de gouvernement. D'un côté, ceux qu'il appelle les gouvernements modérés. Les gouvernements modérés, c'est les gouvernements qui sont régis par des lois, ce que nous appelons aujourd'hui des états de droit. Vous voyez, quand nous parlons d'un état de droit, ben c'est exactement ça. C'est un état qui est organisé selon des lois, qui est réglé par des lois. Et puis, il va donc distinguer ces gouvernements modérés, parmi lesquels vous avez les républiques et les monarchies. Il va les distinguer du gouvernement despotique, qui est celui dans lequel les hommes vivent sans cesse sous la menace de l'arbitraire. Le gouvernement despotique, c'est le gouvernement où les hommes sont livrés à l'arbitraire du despote, où ils vivent sans cesse dans la menace des décisions du despote. Et cette distinction que je viens de faire va vous permettre de comprendre ce qui oppose radicalement Montesquieu au philosophe Thomas Hobbes, qui est son principal adversaire théorique. Je voudrais expliquer très brièvement pourquoi. C'est assez simple à comprendre. Au premier abord, Montesquieu et Hobbes ont le même souci, puisque pour chacun d'eux, la première qualité d'un ordre politique, c'est d'assurer la sécurité. Pour les deux. En mettant un frein au conflit qui risque de déchirer les hommes. Tous les deux ont ce souci, tous les deux partagent ce souci. Seulement, la solution de Montesquieu diffère radicalement de celle de Hobbes. Parce que pour Montesquieu, l'existence d'un souverain tout-puissant qui dispose d'un pouvoir absolu, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est lié à rien, un pouvoir qui n'est lié à aucun principe de justice supérieure et qui n'est même pas lié à ses propres lois. Bon, un pouvoir absolu, eh bien, c'est un pouvoir qui n'est rien d'autre pour Montesquieu qu'un gouvernement despotique. Un pouvoir absolu, c'est un pouvoir qui n'est lié à rien et qui, parce qu'il justement il n'est tenu à rien, est un pouvoir despotique. Et un pouvoir despotique qui, selon sa formule, c'est un pouvoir où un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Et vous remarquez le verbe « entraîner », il n'emploie pas le verbe « gouverner ». Il entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Donc, vous voyez, c'est très important ici. Vous voyez, cette distinction qui a l'air anodine comme ça, elle est centrale. Je dirais, tout ne se concentre pas là, mais enfin, une grande partie de l'analyse de Montesquieu, elle trouve là, finalement, son point fort. Et évidemment, vous connaissez, vous savez certainement que Montesquieu était un farouche adversaire de la monarchie absolue de droit divin de Louis XIV. Il voyait dans la monarchie absolue une dérive despotique. Et il était attaché à l'ordre féodal, qui reconnaissait effectivement un certain nombre de prérogatives à la noblesse, au Parlement, parce qu'il faisait contrepoids. Le roi ne pouvait pas tout faire. Bon, mais on en reparlera. Montesquieu, donc... Par ailleurs, et ça je voudrais aussi insister là-dessus, c'est pas le premier à combiner les deux critères dont je vous ai parlé pour distinguer les différentes espèces de gouvernement. Sur ce terrain, il a un illustre prédécesseur, le philosophe Aristote, qui dans le livre 3 de ses politiques, le livre d'Aristote s'appelle « Les politiques », eh bien, dans le livre 3 des politiques, Aristote combine lui aussi le critère du nombre à celui de la manière de gouverner. Et Montesquieu connaît forcément la typologie d'Aristote qui est la référence. C'est la référence. Dans tout domaine, si vous voulez, le grand penseur qui va s'imposer à l'Occident, c'est Aristote, pendant très très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle. D'une manière ou d'une autre. Donc Aristote, c'est une référence incontournable en politique, en physique, enfin dans tous les domaines, en logique, etc. Donc il connaît forcément cette typologie d'Aristote. Et si on veut comprendre l'originalité de la typologie de Montesquieu, si on veut en comprendre aussi l'intérêt, eh bien il faut voir ce qui à la fois le rapproche d'Aristote, mais aussi ce qui l'en éloigne. Alors, pour Aristote, j'en parle deux secondes, il ne faut pas seulement distinguer les gouvernements selon le nombre de gouvernants, il faut aussi tenir compte de l'intérêt qui est visé par les gouvernants. Il y a deux sortes de gouvernements pour Aristote. Vous avez les gouvernements droits et les gouvernements déviés, ou gouvernements corrompus. Si vous voulez. Les gouvernements droits, ce sont les gouvernements où les gouvernants visent l'intérêt général. Et vous avez trois sortes de gouvernements droits, selon le nombre, la monarchie. Une monarchie, c'est un gouvernement où le roi vise l'intérêt général, a le souci de l'intérêt général. L'aristocratie, ce sont les meilleurs, aristoi en grec c'est les meilleurs, ce sont les meilleurs qui gouvernent, ils visent l'intérêt général. Et puis, troisième gouvernement, alors il n'y a pas de nom particulier pour ça, on traduit ça par le gouvernement constitutionnel. Le gouvernement constitutionnel, c'est le gouvernement de tous, mais qui vise l'intérêt général. Et pour chaque forme de gouvernement droit, vous avez une forme de gouvernement dévié, une forme de gouvernement corrompu, qui ne vise pas l'intérêt général. Les gouvernants ici visent leur intérêt particulier. Par exemple, le gouvernement corrompu, qui est une déviation de la monarchie, c'est la tyrannie. L'oligarchie correspond à l'aristocratie. Et puis la démocratie, terme péjoratif, gouvernement de la foule, de ceux qui sont les plus nombreux, de la masse, c'est une déviation du gouvernement constitutionnel. Mais la démocratie, ce n'est pas un terme positif. Bon. Donc vous avez trois formes de gouvernement droit, trois formes de gouvernement dévié. Bon, facile à comprendre. Hein. Alors, vous avez les textes, vous avez photocopié les textes. Hein. Mais bon, vous les lirez, franchement, c'est limpide. Alors, comme on le voit, si vous avez bien compris tout cela, pour la tradition, pour Aristote, il est question de la tyrannie, mais nulle part il n'est question du gouvernement despotique. Alors vous allez me dire, gouvernement despotique, tyrannie, mais c'est la même chose. Non, non, si on n'y fait pas attention, vous allez penser que c'est la même chose. Et ce n'est pas une question simplement de vocabulaire, une question de mots. Je m'explique. C'est-à-dire que Montesquieu, d'abord, ne fait pas du gouvernement despotique l'équivalent du gouvernement tyrannique. Et il ne voit pas dans le gouvernement despotique une sorte de version corrompue du gouvernement monarchique. Ce n'est pas comme ça qu'il présente le gouvernement despotique. Hein, il ne présente pas le gouvernement despotique comme une déviation du gouvernement monarchique. Hein. Vous avez noté ça. Bon. Mais il fait... Montesquieu fait, si vous regardez bien sa typologie, il fait du gouvernement despotique un gouvernement à part entière. Pas une déviation, pas une corruption d'un autre gouvernement. C'est un gouvernement à part entière. Et par ailleurs, vous avez noté déjà qu'en regroupant l'aristocratie et la démocratie comme deux variantes d'un seul et même régime qui s'appelle le régime républicain, Montesquieu a fait une place à un nouveau gouvernement qui est justement le gouvernement despotique, puisque vous avez le républicain, le monarchique, et vous avez une place pour le troisième, qui est le gouvernement despotique. Il s'est débrouillé pour faire ça. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, il faut vraiment que vous compreniez que la grande invention de Montesquieu, sa grande invention conceptuelle, c'est justement celle du gouvernement despotique. Et si vous voulez en mesurer la nouveauté, il faut que vous vous rappeliez que le terme de despote, originellement, ne relève pas du domaine politique. Chez les anciens, pour Aristote notamment, le despote, c'est le maître qui détient un pouvoir domestique sur ses esclaves. La relation du maître à l'esclave, ce n'est pas une relation politique, c'est une relation domestique. Vous voyez ? Le maître, il est maître de la maisonnée, hein ? Oikos en grec, qui va donner économie. Vous voyez ? Il est maître de la maisonnée avec les esclaves, sa famille. Mais l'esclave n'a pas d'existence politique, ce n'est pas un citoyen. Ce n'est pas un citoyen. Le domaine politique ne concerne que les citoyens. C'est-à-dire que le pouvoir politique, il s'exerce sur des citoyens, sur des égaux, sur des hommes qui sont libres. Vous voyez ? C'est pas la même autorité. Et on ne doit pas confondre, pour Aristote, l'autorité politique et l'autorité domestique. Et alors, au lieu d'ailleurs de dire pouvoir despotique, je pourrais dire pouvoir domestique. C'est exactement la même chose. Et Montesquieu n'est pas sans savoir, il n'est pas sans connaître la distinction que font les Grecs, que fait Aristote notamment, entre le pouvoir politique et le pouvoir domestique. Et donc vous voyez que son audace consiste à transformer le concept de despote, qui est originellement un concept étranger au domaine politique. Donc son audace consiste à transformer le concept de despote en un concept éminemment politique. Et ça, la nouveauté. Et la notion d'esclave également va prendre une dimension politique. Et c'est peut-être là que Montesquieu est un grand novateur, puisque tous les autres philosophes à sa suite vont dire la même chose. C'est-à-dire que, originellement, l'esclave, c'est celui qui est, au fond, au service d'un maître. Hein. Il appartient au domaine de la domesticité. À partir du XVIIIe siècle, la notion d'esclave va se généraliser pour désigner tous ceux qui sont asservis par un pouvoir politique. Vous voyez, la notion d'esclave prend un sens politique. C'est tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Et ça vient, au fond, de ce déplacement qu'opère ici Montesquieu. Si vous voulez comprendre donc l'invention, l'originalité de l'invention de Montesquieu, hein, le gouvernement despotique, eh bien, il faut que vous compreniez qu'elle présuppose trois idées nouvelles. Trois idées nouvelles qui rompent avec la tradition de la pensée politique. La première idée. D'abord, il faut considérer que le gouvernement despotique, c'est un gouvernement qui fait violence à tous les hommes, sans exception, pour Montesquieu, et pas seulement à une catégorie d'hommes. Alors que, voilà la différence avec Aristote. Si Aristote distingue justement le tyran du despote, c'est dans la mesure où le tyran exerce un pouvoir sur des zones libres. Le scandale de la tyrannie, c'est d'exercer un pouvoir sur des hommes libres comme si on les traitait comme des esclaves. Et c'est ça le scandale de la tyrannie, pour un grec. C'est que le gouvernant traite les hommes libres comme des esclaves. Et c'est en ce sens-là qu'il est un tyran. Mais en revanche, que le maître traite comme il veuille ses esclaves, c'est son affaire, c'est une affaire domestique, c'est pas une affaire politique. C'est-à-dire que pour Aristote, il n'y a pas d'égalité naturelle des hommes. Il n'y a pas d'égalité naturelle des hommes. Les hommes ne naissent pas tous libres et égaux en droit, comme le dit la première. Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent libres et égaux en droit. Ben non, ça c'est vrai pour nous, modernes. Ça commence évidemment, cette idée, elle commence à advenir avec les philosophes du droit naturel moderne et avec Montesquieu, mais ce n'est pas une idée qui est présente chez les anciens. Vous voyez, l'esclavage par nature va de soi. Il y a un esclavage légitime. C'est l'esclavage par nature. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie naturelle entre les hommes. Il y a des hommes qui sont nés pour être libres, parce qu'ils ont les capacités de l'être. Et puis, il y a des hommes qui sont nés pour servir, parce qu'ils n'ont pas les capacités de se diriger eux-mêmes. Et d'ailleurs, la pire des choses que vous puissiez faire à l'égard d'un esclave, c'est de l'affranchir. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de se diriger lui-même. Vous l'abandonnez. Donc, vous lui rendez service quand vous êtes son maître, hein, d'une certaine façon. C'est ça l'idée. Alors, évidemment, il vous sert, hein, il vous est utile, mais vous lui êtes utile aussi, parce qu'il n'est pas capable de se diriger, de se gouverner lui-même. C'est pour ça qu'il a besoin de vous. Vous voyez, c'est comme ça qu'on conçoit les choses. Bon, évidemment, voilà ce qui justifie l'autorité naturelle du maître sur son esclave. L'idée d'un esclavage par nature, évidemment, elle est totalement repoussée ici par Montesquieu. Hein ? Et vous aurez compris que si, pour un grec, il y a une différence entre la tyrannie et le despotisme, c'est bien parce qu'on a affaire à deux registres différents. Donc Montesquieu refuse l'idée d'un esclavage qui serait légitime par nature, et il va étendre et généraliser l'idée d'un pouvoir despotique comme l'idée d'esclave, sur le plan politique. Et là où Aristote dénonce la tyrannie comme un gouvernement contre nature, puisqu'il revient à traiter ses concitoyens comme des esclaves, eh bien Montesquieu dénonce le gouvernement despotique comme un gouvernement contre nature, parce qu'il traite tout homme en général, en esclave. C'est-à-dire qu'il porte atteinte à l'humanité entière. Ça, c'est la première idée, vous voyez ? Sacré déplacement. Deuxième idée, le gouvernement despotique n'est pas seulement un gouvernement qui fait violence à tous les hommes, c'est aussi un gouvernement qui menace tous les peuples. Et ça aussi, c'est une autre idée importante. Et sur ce point encore, Montesquieu est en rupture avec Aristote. Alors, je l'explique. Aristote dénonce le pouvoir tyrannique comme un pouvoir contre nature en Grèce. Chez des hommes civilisés, un pouvoir tyrannique, c'est un pouvoir scandaleux, contre nature. En revanche, il lui accorde une existence naturelle dans les peuples d'Asie, chez les barbares. Chez les barbares, bon, c'est naturel qu'il y ait des hommes qui exercent une tyrannie sur d'autres hommes. Et je vous lis ici, par exemple, un extrait du livre 3 de ses politiques. Il écrit la chose suivante. « Les barbares étant, par leur caractère, plus serviles que les Grecs, et les peuples d'Asie plus serviles que ceux d'Europe, ils supportent le pouvoir despotique, en fait le pouvoir tyrannique, sans s'en plaindre. » C'est-à-dire que, bon, les peuples d'Asie, bon, ça va de soi pour eux, qu'il puisse y avoir un pouvoir tyrannique. Hein. C'est... parce que les peuples d'Asie sont serviles par nature. Ils sont serviles par nature. Alors pourquoi sont-ils serviles par nature ? Eh bien, Aristote développe toute une théorie du climat pour expliquer cette servilité. Ils sont serviles en raison du climat chaud qui règne sur leur continent. C'est-à-dire que, comprenez que la chaleur entraîne un certain tempérament qui vous rend docile et qui vous expose à la servitude. Et c'est pour ça que, effectivement, ces hommes-là sont serviles. Et vous savez que cette mentalité-là, elle va subsister très longtemps. Parce que c'est comme ça qu'on va envisager les Noirs aussi, après. Vous voyez ? Hein ? Ils sont indolents, ils sont serviles. Bon. Alors, à première vue, on serait tenté de dire que Montesquieu reprend la thèse d'Aristote. Parce que lui aussi, il fait du despotisme une donnée naturelle, localisable en Asie, quand il parle du despotisme oriental. Vous savez que dans les lettres persanes, il parle de la structure despotique du pouvoir en la comparant à un sérail. Hein ? Et il dit assez volontiers que l'Asie, c'est le lieu où règne justement le gouvernement despotique. Et on pourrait penser, que Montesquieu s'inscrit finalement dans la continuité d'Aristote. Parce que je vous lis un petit extrait du chapitre 14 du livre 5. Le despotisme, dit-il, est pour ainsi dire naturalisé dans la partie du monde qu'est l'Asie. Je reprends ma formule. Le despotisme est pour ainsi dire naturalisé dans la partie du monde qu'est l'Asie. Donc on pourrait franchement dire, quelle est la différence entre Montesquieu et Aristote ? Il n'y en a pas. Seulement il y a une nuance même. Il y a une nuance dans le propos d'Aristote, dans le propos de Montesquieu. Et toute la différence entre lui et Aristote tient à cette nuance. Il dit « pour ainsi dire ». Et cette nuance, en effet, interdit de considérer l'influence du climat chaud, celui de l'Asie, comme un destin implacable. Et c'est ce qu'il va s'efforcer de montrer, justement, dans le fameux livre 14 qu'il consacre à la question du climat. Dans le livre 14, il parle du climat. C'est, au fond, une théorie très originale de Montesquieu, qui développe. Bon, on aura peut-être l'occasion de revoir ça. Mais dans ce livre, il s'attache à expliquer, effectivement, l'influence du climat sur la sensibilité et sur le caractère des hommes. Et cette influence est d'autant plus redoutable qu'elle s'exerce dès le plus jeune âge. Et elle est, font cette influence, elle est chronologiquement la première à intervenir dans la formation du caractère et des mœurs. Vous voyez, c'est la première influence qu'on subit, c'est le climat. Et d'ailleurs, Montesquieu écrit que l'empire du climat est le premier de tous les empires, le premier au sens chronologique, c'est celui qu'on subit le premier. Donc, si je suis Montesquieu, un climat chaud prédispose à la paresse et à la servitude, et expose donc à l'emprise d'un gouvernement despotique. Et à l'inverse, un climat tempéré, comme celui de l'Europe, est beaucoup plus favorable à l'éclosion de la liberté politique. On pourrait dire, c'est du Aristote. Pour autant, le climat n'exerce pas une influence fatale. Et comme l'explique Montesquieu, il n'est pas le seul facteur qui détermine la formation du caractère des individus et des mœurs des nations. Et là, vous avez un passage que je vous ai photocopié, texte numéro 6, page 3, en bas à gauche. Regardez ce qu'il écrit. Plusieurs choses gouvernent les hommes, dit-il. Plusieurs choses gouvernent les hommes. Le climat. C'est ce qu'on vient de dire. La religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières, d'où il se forme un esprit général qui en résulte. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Le climat est peut-être le facteur qui est chronologiquement premier, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer dans la formation du caractère et celle des mœurs. Et s'il est vrai que le climat chaud prédispose à la servitude et se trouve d'abord localisé en Asie, il est possible à un législateur d'en corriger les effets en instituant des lois qui vont contrecarrer l'influence du climat. Vous voyez, une bonne législation peut contrecarrer l'influence du climat. Et à l'inverse, les pays européens qui jouissent d'un climat tempéré, et un climat qui est favorable à l'éclosion de la liberté politique, eh bien, ce sont des pays qui ne sont pas a priori épargnés par le despotisme. Il peut y avoir aussi gouvernement despotique dans un pays européen, surtout quand ce pays est habitué à subir les excès de ce que Montesquieu appelle l'abus de pouvoir, la monarchie absolue, le droit divin. C'est-à-dire que, attention, n'allez pas penser que, voyez, la servitude est le lot exclusif des pays chauds. D'abord, les pays chauds peuvent très bien effectivement y échapper, hein, si on joue sur d'autres facteurs. Et puis, les pays tempérés, qui jouissent pourtant de conditions favorables, peuvent très bien effectivement entrer dans la servitude. Donc, et d'ailleurs, au livre 8, lisez le livre 8, Montesquieu est très inquiet sur l'avenir de l'Europe. Il se demande si on ne va pas glisser progressivement dans le despotisme. Attention. Donc, vous voyez que le despotisme, c'est une menace pour tous les peuples, sans exception. Et troisième idée, là je suis très court, troisième idée révolutionnaire, si je peux dire, le despotisme, c'est un mal politique qui ne s'appréhende pas simplement à travers la personnalité du despote. Parce que, traditionnellement, quand on expliquait le gouvernement despotique ou tyrannique, on renvoyait ça à la personnalité du tyran ou du despote. Vous voyez ? Or, là, non. Si on veut comprendre le gouvernement despotique, il faut le comprendre dans son fonctionnement, dans sa logique interne. Il faut étudier le gouvernement despotique pour lui-même. Vous voyez ? Et c'est ça l'originalité aussi de Montesquieu. Et donc si je récapitule, qu'est-ce qui constitue en définitive l'originalité du concept de gouvernement despotique ? Premièrement, c'est un gouvernement qui peut faire violence à tous les hommes, sans exception, pas seulement à une catégorie. Deuxièmement, c'est un gouvernement qui menace tous les peuples, donc qui a une portée universelle en ce sens. Troisièmement, c'est un gouvernement capricieux et sans loi, dont la violence n'est pas simplement le résultat de la méchanceté du despote, mais il est le résultat du fonctionnement interne de ce type de gouvernement. Donc il ne s'agit pas, vous voyez, de diaboliser, comme on dirait aujourd'hui, le despote, ça ne sert à rien, hein, le méchant, l'affreux le despote. Non, non, il faut comprendre qu'il y a une logique interne de ce gouvernement qui fait que, évidemment, il est nocif, il est mauvais. Et donc il faudra l'étudier comme tel. J'en arrive au deuxième point de cette deuxième partie. Donc j'ai dit qu'on ne pouvait pas parler dans l'absolu du meilleur gouvernement, hein, ça je l'ai dit. Le bien en politique s'évalue toujours en fonction d'un contexte particulier, puisque le meilleur gouvernement, c'est celui qui vaut le mieux pour tel peuple particulier. Mais si on ne peut pas parler dans l'absolu du meilleur gouvernement, en revanche, on peut affirmer dans l'absolu que le pire des gouvernements, c'est le gouvernement despotique. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Montesquieu, c'est un gouvernement monstrueux. C'est l'adjectif qu'il emploie. C'est un gouvernement monstrueux qui, dit-il, et on étudiera ça, hein, qui cause à la nature humaine des maux effroyables. C'est dans le livre 2, chapitre 4. C'est un gouvernement monstrueux qui cause à la nature humaine des maux effroyables. Donc, vous voyez, ça, c'est tout à fait caractéristique de la pensée de Montesquieu. Il n'y a pas le meilleur gouvernement dans l'absolu. Hein, on ne peut pas dire a priori que la monarchie ou la République, c'est le meilleur gouvernement. Vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas de modèle. Pour Montesquieu, il n'y a pas de modèle de gouvernement. Et quand on lui fait dire qu'il avait pour modèle la monarchie constitutionnelle anglaise, c'est un contresens. Ce n'est pas un modèle, c'est un exemple. Et puis, en même temps qu'il dit ça, par contre, il montre qu'on peut dire dans l'absolu, a priori, que le pire des gouvernements, quel que soit le peuple, c'est le gouvernement despotique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, on sait quel est le pire, mais on ne sait jamais bien quel est le meilleur, dans l'absolu. Et les gouvernements despotiques, vous savez bien, ils font usage de la torture. Ils terrorisent leurs sujets. Ils violent de manière générale ce que Montesquieu appelle les lois de la nature. Les lois de la nature qui sont constitutives de la nature humaine. Et se font sentir en tous les hommes, quel que soit le peuple auquel ils appartiennent. Et comme on l'a vu, vous vous souvenez au chapitre 2 du livre 1, les lois de la nature, ce ne sont pas des règles prescrites par la raison qui commande au législateur ce qu'il doit faire, hein, pour que les lois qu'il établit soient justes. Pas comme ça qu'il l'entend, hein, les lois de la nature. Non, les lois de la nature, ce sont les lois constitutives de la sensibilité humaine, parce que les hommes sont d'abord des êtres sensibles qui aspirent à vivre en paix, en compagnie de leurs semblables, avant d'être des êtres capables de raisonner. Au fond, les lois de la nature, n'oubliez pas, ce sont ces tendances animales qui nous constituent, qui font notre sensibilité d'homme. Hein, et ce sont ces lois de la nature que viole justement le gouvernement despotique. C'est un gouvernement, si vous voulez, qui porte atteinte à la nature humaine. C'est en ce sens-là qu'il est le gouvernement le pire. Le gouvernement monstrueux. Et vous voyez que les lois de la nature, elles ne disent pas ce que les lois positives doivent être. Elles ne prescrivent pas ce que doit être un bon gouvernement, mais elles fixent la limite de ce qui est acceptable. Voilà. Elles fixent la limite de ce qui est tolérable. Elles disent ce qu'il ne faut faire en aucun cas. Ce qu'on ne doit jamais faire, en quelque cas que ce soit, c'est porter atteinte à la nature de l'homme. Et c'est pourquoi seuls les gouvernements modérés, les gouvernements réglés par des lois, qu'ils soient républicains ou monarchiques, sont en mesure de préserver la vie et la sécurité des hommes en les faisant dépendre seulement des lois politiques et civiles, en leur évitant, en évitant aux hommes d'être soumis à l'arbitraire d'un despote. Vous voyez, tout se tient. Hein. Alors, maintenant, quand on étudie, 5 minutes, chaque type de gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit d'abord quelles sont les lois qui suivent directement de sa nature. C'est ce que Montesquieu indique. Justement, regardez bien le texte numéro 7. Texte numéro 7, dernier paragraphe. Vous voyez, voilà ce que j'appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les lois qui suivent directement de cette nature et qui, par conséquent, sont les premières lois fondamentales. Donc, les lois fondamentales, ce sont les lois qui constituent un gouvernement comme république, comme monarchie ou comme gouvernement despotique. Donc, vous avez donc les lois politiques qui définissent la nature d'un gouvernement. Et puis, après avoir étudié la nature d'un gouvernement, on va examiner ce que Montesquieu appelle le principe de chaque type de gouvernement. Je me contenterai ce soir d'expliquer ça, parce que sinon, on y est pour dans 2 heures encore. Alors, le principe de chaque type de gouvernement, et ici, il faut vraiment comprendre ces termes, ils sont fondamentaux, nature et principe. La nature d'un gouvernement, c'est, comme le dit le premier chapitre du livre 3, c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est. C'est ce qui fait, c'est ce qui le fait être ce qu'il est. C'est ce qui le fait être ce qu'il est. Regardez la formule, ligne 5, livre 3, donc chapitre 1er, le texte numéro 8. J'ai souligné le passage. Il y a cette différence entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est ce qui le fait être. Vous voyez, c'est ça. Et puis, le principe, c'est ce qu'il fait agir. Et après, vous avez une phrase qui explicite un peu les choses. L'une est sa structure particulière, et l'autre, les passions humaines qui le font mouvoir. Bon, alors, c'est ça qu'il faut que j'explique. C'est la notion de principe ici qui est importante maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque espèce de gouvernement correspond donc un principe spécifique. Et qu'est-ce que c'est qu'un... Quel est ce principe? C'est une passion. C'est une passion qui motive l'obéissance des hommes. L'obéissance des hommes à ce gouvernement. C'est-à-dire que pour chaque gouvernement, il faut que les hommes soient mobilisés par une passion qui leur permette de lui obéir. Une passion spécifique. Ce gouvernement a besoin donc de cette passion pour exister, pour se mouvoir, et il faut des lois civiles qui entretiennent cette passion. Sinon, elle risque de s'éteindre, et si cette passion qui motive l'obéissance des hommes au gouvernement, si cette passion s'éteint, et bien, si elle n'est pas entretenue par des lois, et bien ce gouvernement risque, à ce moment-là, de se disloquer. Il risque de se corrompre. Vous voyez ? On verra ainsi, je prends des exemples, que le gouvernement républicain, il a pour principe la vertu. Et qu'est-ce que l'on entend par la vertu ? C'est l'amour des lois. C'est une passion qui fait que les hommes aiment les lois auxquelles ils obéissent. Et s'ils obéissent, c'est par amour des lois. Ils sont portés par l'amour de l'intérêt général, si vous voulez. Et c'est ça qui fait que le gouvernement républicain peut se maintenir. Et si la vertu disparaît, bah, ce gouvernement s'écroule. Il n'est plus qu'une république de nom, mais il n'a pas de réalité en tant que république. Voyez ? Donc ça, c'est un premier point. Le gouvernement monarchique, lui, a pour principe une toute autre passion qui est l'honneur. Et l'honneur, c'est une passion hiérarchique. C'est-à-dire, c'est la passion que l'on a pour son rang. C'est une passion égoïste. Une monarchie n'a pas besoin que les hommes aiment les lois pour se maintenir, vous voyez ? Elle repose sur une autre passion, sur un autre principe. Et c'est ce qu'il faudra comprendre. Et puis, le gouvernement despotique, lui, a pour principe la crainte. C'est-à-dire un despote qui cesse de se faire craindre, il disparaît, il perd son pouvoir. Vous voyez, ça marche à la crainte, un pouvoir despotique. Donc, vous voyez comment Montesquieu va expliquer ici le maintien de ce type de gouvernement. Et à chaque espèce de gouvernement correspond donc à un mode d'obéissance qui lui est particulier, que les lois civiles doivent entretenir pour éviter justement sa dislocation. Et je voudrais ici, encore une fois, souligner l'originalité de Montesquieu, et j'arrête là-dessus, par rapport aux autres philosophes, par rapport aux philosophes du droit naturel. Vous vous souvenez que pour les philosophes du droit naturel moderne, la question importante, c'est la question du fondement de l'obéissance à l'autorité politique. C'est-à-dire, au fond, la question qui se pose, c'est pour quelles raisons doit-on obéir ? Hein ? Qu'est-ce qui fait que l'obéissance est légitime ? Voilà la question qui se pose. C'est la question aussi que se pose Rousseau. Hein ? Eh bien, la question de Montesquieu, ce n'est pas celle-là. Sa question, c'est de savoir quelles sont les motivations passionnelles qui détermine les hommes à obéir à un gouvernement établi. C'est une question de fait. Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qui fait que les hommes obéissent à une république, à une monarchie ? Quel est le moteur ? Quel est le principe qui fait fonctionner ce gouvernement, qui fait que les hommes obéissent à ce gouvernement ? Il y a un type de passion à chaque fois singulier. Et contrairement à ces philosophes, Montesquieu ne part pas de l'abstraction d'un individu humain supposé universel qui se trouverait dans un état de nature invivable où il serait en danger de mort et où il n'aurait d'autre choix que pour se conserver que de s'associer avec d'autres hommes et d'obéir à un pouvoir commun. Pourquoi il ne fait pas ça, Montesquieu ? Pourquoi il ne part pas de cette manière-là ? Pourquoi il n'envisage pas ici les choses de cette façon? Parce que cet individu n'est qu'une pure abstraction. Ce n'est qu'une pure abstraction. Les seuls individus qui existent concrètement, ce sont les hommes tels qu'ils sont modelés selon les diverses sociétés, tels qu'ils ont été en quelque sorte déjà modifiés par les opinions, par les mœurs qui sont celles d'une société et qui sont en rapport aussi avec un certain type de gouvernement. Souvenez-vous de la préface, souvenez-vous de ce que disait Montesquieu dans la préface. L'homme est cet être flexible, se pliant dans les sociétés aux pensées et aux impressions des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu humain qui serait le même partout. Les hommes sont modelés en fonction du type de société dans lequel ils vivent, en fonction du type de gouvernement auxquels ils ont affaire, auxquels ils ont été habitués à avoir affaire. Et donc, vous voyez bien que des hommes qui ont été habitués à vivre, par exemple, dans un gouvernement despotique, ils sont habitués à craindre, vous voyez ? Ils ont une psychologie différente, vous voyez ? Et donc, vous voyez ici qu'on ne peut pas, comme le font les philosophes du droit naturel moderne, on ne peut pas caractériser les hommes selon une seule et unique passion qui serait le désir de vivre en sécurité. Quel que soit le type de gouvernement, bien sûr, ce désir de sécurité est commun aux trois espèces de gouvernement. Mais ce désir de sécurité, il s'exprime de manière différenciée selon les types de gouvernement, selon les situations. C'est-à-dire que ce désir de sécurité, il devient amour des lois, il devient vertu dans une république, il devient honneur dans une monarchie, il devient crainte dans un gouvernement despotique. Et alors évidemment, je vais arrêter là, mais on reprendra à partir de là. Au fond, ce que nous allons comprendre, c'est que si vous voulez vraiment comprendre la philosophie de Montesquieu, vous voyez, sa manière d'envisager l'analyse des types de régimes, il faut que vous maîtrisiez les deux concepts, au fond, qui sont à la base de son analyse, celui de nature, celui de principe, et leur solidarité. C'est-à-dire que la nature du gouvernement et le principe d'un gouvernement, ils fonctionnent ensemble. Hein. Et d'ailleurs, il a des métaphores pour bien s'expliquer. Au fond, les gouvernements, c'est comme des machines. Une machine, c'est un assemblage de pièces. Mais vous pouvez très bien décrire la structure d'une machine, mais ce n'est pas parce que vous aurez compris ce qu'est la structure d'une machine que ce qu'elle fonctionne. Elle fonctionne que si elle a un ressort, que si elle a un moteur. Hein? Et le moteur, bah, c'est le principe. Et s'il n'y a plus le principe, bah, il n'y a plus de machine. Vous voyez? La nature ne peut pas aller sans le principe, le principe ne peut pas aller sans la nature. Il y a une solidarité des deux notions. Vous voyez? Donc, je vais arrêter là parce qu'après, ce serait un peu trop long. Et je voulais simplement entamer la réflexion par l'examen du gouvernement républicain. Parce que je vous indique un peu ce qu'on va faire hein, quand on aura présenté, vous voyez, les linéaments de l'analyse politique de Montesquieu. À partir de là, on peut aborder le gouvernement républicain. Par comparaison, on peut parler du monarchique. Et après, je crois qu'il faut tout de même bien parler et reprendre la question du gouvernement despotique qui est fondamentale dans l'œuvre de Montesquieu. Puis après on peut parler des conditions de la liberté politique. Vous voyez, on peut cheminer. Mais vous voyez, vous avez là les éléments qui vous permettent d'entrer dans la lecture et de dominer cette lecture. Ça, il faut les avoir. Hein. Si vous voulez lire un texte, il faut connaître les concepts de base hein, qui permettent, au fond, de lire le texte. J'arrête là. Voilà. Un peu long. Bon. Mais c'est à cause de lui.
J'en étais sûr.
Voilà. Donc, c'était pas trop compliqué ? Bon, ça l'est pas, hein. Alors, vous avez d'ailleurs déjà photocopié des textes un peu sur le gouvernement républicain, c'est la quatrième page. Donc, vous avez déjà quelques textes importants. Alors, quand j'aborderai le gouvernement républicain, j'aborderai surtout la démocratie. Hein. On ne va pas parler de tout. C'est vrai que là, je ferai une lecture assez transversale. Je ne pourrais pas lire les textes les uns après les autres. Pas possible. Bon, on fera forcément un parcours. Voilà. Donc,
l'expression toute faite, un despote éclairé, ça n'a aucun sens.
Ah, bonne question. Ben, c'est-à-dire que la théorie du despote éclairé, c'était celle de Voltaire.
Oui, mais quel sens ça peut bien avoir ?
Alors effectivement, pour Montesquieu, un despote éclairé, non, ça c'est une contradiction. C'est un oxymore. Hein. Effectivement, un despote, c'est un gouvernant qui ne gouverne absolument pas de manière éclairée. On aura l'occasion de comprendre pourquoi. Et qui délègue d'ailleurs son pouvoir à un vizir. Bon, et qui ne gouverne pas, en fait. D'ailleurs, vous avez eu le verbe qui est utilisé par Montesquieu pour désigner le gouvernement despotique. Il entraîne par sa volonté. Hein, il y a une sorte de transmission immédiate du pouvoir sans réflexion, et, puisque tout est d'ordre du caprice. Et il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de vrai gouvernement. Un gouvernement, c'est une machine complexe, avec un système de rouages, de poids et de contrepoids. Vous voyez ? Bon, il y a toute une... Vous voyez, un dispositif qu'on appelle une constitution, qui permet à ce gouvernement de fonctionner, selon un certain équilibre. Hein ? Bon, et dans un gouvernement despotique, non, il n'y a pas ça. Alors ça, effectivement... ce que dit Voltaire, qui va d'ailleurs être apprécié par Frédéric de Prusse, le roi de Prusse, effectivement, admirait Voltaire, il correspondait avec Voltaire, ben, effectivement, le despote éclairé, ce serait au fond un sage, un chef d'État qui mènerait son pays à la baguette, mais qui le mènerait à la baguette de façon intelligente. Hein. Puisque...
Oui, la prussienne,
bah, exactement, tout à fait. Frédéric II était un lecteur de Voltaire, absolument. D'ailleurs, Voltaire, il est allé hein, en Prusse, à Berlin, il en est revenu. il a été rossé, hein. C'est un très mauvais souvenir de son séjour là-bas. Donc là, oui, effectivement, la théorie du despote éclairé est vraiment étrangère à ce que dit Montesquieu.
Parce que c'est plus qu'un oxymore, parce qu'un oxymore, ça n'a pas un sens. Là, on se demande ce que ça peut bien vouloir dire.
Bah, ça veut dire qu'au fond, selon ceux qui défendent cette théorie, cette conception du pouvoir, c'est que un despote n'est pas forcément un despote éclairé, c'est pas un despote qui simplement gouvernerait uniquement selon son caprice, de manière arbitraire, mais de manière intelligente, sage, en mettant en œuvre un certain savoir politique.
Ça sera
un
monarque.
Hein ?
C'est un monarque.
Oui. Un monarque. Oui, mais il y a monarque et monarque.
Oui.
C'est ça. Voltaire était un partisan de la monarchie, hein, absolu. Il n'a pas de problème pour lui. La monarchie, c'est une bonne chose. Donc, effectivement, Montesquieu, alors, disons les choses, pas un démocrate. Il faut être clair. Mais, à la limite, qui est démocrate à l'époque ? La démocratie, c'est... on aura l'occasion de voir. Pour les philosophes, pendant très longtemps, la démocratie, c'est la démocratie antique. C'est une démocratie directe. Il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas d'assemblée de représentants. D'ailleurs, ceux qui ont inventé l'assemblée des représentants, c'était des gens qui étaient hostiles à la démocratie. Il fallait des représentants pour éviter que le peuple gouverne. Il ne faut pas oublier ça, hein, que la théorie de la représentation, c'est une théorie qui a été justement élaborée pour éviter le danger de la démocratie. Parce qu'on avait peur du peuple. Que le peuple gouverne, c'est la pire des choses.
C'est la populace.
Voilà. Alors, sauf que, aussi, il faut nuancer, parce que pour les Grecs, pour les anciens, la démocratie, c'est une démocratie élective. Hein. Les hommes, les habitants d'Athènes ne sont pas tous des citoyens. Vous éliminez les esclaves, les métèques, donc les étrangers, les femmes. Il y a un dixième, deux dixièmes de la population. Et même avec ça, vous avez des penseurs grecs qui se méfient de la démocratie parce qu'ils ont tout de même peur que les pauvres aient trop de pouvoir. C'est pour ça qu'il y a tout un micmac pour essayer de faire en sorte que leur poids ne soit pas trop important, etc. Parce qu'il y a des citoyens pauvres. Hein. Bon, il y a tout un débat là-dessus. Mais c'est vrai que la démocratie est un régime qui faisait peur. Montesquieu est assez hostile à la démocratie. Il est pour une représentation, pour des représentants. Il faut qu'il y ait des représentants qui représentent le peuple. Par exemple, la Constitution d'Angleterre, il y a deux chambres. Il y avait la Chambre des Lords, pour l'élite, hein, la noblesse, et puis la Chambre des communes, qui représente le peuple. Mais il y a un filtrage. Vous voyez ? Donc il faut des... En même temps, il faut que le peuple ait sa place. Je ne dis pas que le peuple doit être complètement éliminé, mais il faut qu'il ait sa place, et rien que sa place. Donc, il faut vous... Nous considérons que la démocratie, c'est la démocratie représentative. Mais ça aussi, c'est un oxymore. C'est un oxymore. Une démocratie, ça peut pas être représentative. Il ne peut pas y avoir de représentation. Dès qu'il y a représentation, à moins que les députés soient mandatés comme des délégués. Qu'ils aient un mandat impératif. Ça, c'est la conception de Rousseau. Mais si, au contraire, vous considérez comme Montesquieu, comme Sieyès, comme ceux qui, au début, sont qui ont élaboré la Constitution de 1791, eh bien, ces gens-là, ils sont hostiles à toute forme de démocratie participative, où le peuple participe directement aux institutions. C'est pour ça qu'ils élaborent l'idée de représentation pour éviter, justement, ce problème. Oui.
Peut-être que quand le peuple a réellement participé, c'est par la violence, la plupart du temps.
Alors,
parce que la pensée toute seule, la reconnaissance de la pensée ne suffit pas
Ah, totalement. De toute façon, la Révolution française, elle s'est faite parce que le peuple était venu à Versailles et que les députés qui étaient là, du tiers d'État, ils étaient sous la pression du peuple qui venait. Hein. Donc, il y a des choses qui se sont passées, qui ne se seraient jamais passées s'il n'y avait pas eu l'intervention du peuple. Il ne faut pas se le dissimuler. Hein. On est bien d'accord. Bien d'accord. Donc effectivement, le peuple, la foule, la notion de peuple, vous savez, a deux sens. Il y a le peuple comme populus, le peuple comme corps civique. Hein, ceux qui ont le droit d'être citoyens, l'ensemble des citoyens, si vous voulez, qui ont la voix au chapitre. Bon, ça, c'est la définition, si vous voulez, légale du peuple. Et puis vous avez le peuple au sens social, le bas peuple, le vulgus. Vous voyez, il y a le populus, il y a le vulgus. Et le peuple, c'est la plèbe. Et la plèbe est dangereuse. Donc, vous voyez, là, on s'en méfie. Et c'est bien, ce qui est intéressant, quand on lit Montesquieu, c'est qu'il articule les deux sens. Une réflexion sur le peuple dans ces deux sens. Et ça, c'est intéressant. Bon, on ne peut pas en parler ce soir, mais c'est intéressant. Ben, il faut que vous sachiez que la notion de peuple était une notion très péjorative jusqu'à la veille de la Révolution française. C'était la population. C'était la population. Et d'une certaine façon, le premier geste des théoriciens politiques, c'était de renouer avec la conception du peuple des anciens, justement des Romains, le populus, etc. Donc là, ça c'est un sujet vraiment intéressant. L'histoire et la philosophie là sont mêlées. Despote éclairé, oui. Le peuple n'est bien que lorsqu'il est soumis.
Et autre chose aussi, plusieurs choses gouvernent les hommes. Le climat, la religion, etc.
Oui.
La religion, ça semble presque donner de soi ou presque tomber du ciel, si j'ose dire.
Alors attendez, il gouverne, c'est-à-dire exerce une influence sur.
Oui.
Donc le climat, oui, ça forme le caractère, les mœurs d'une nation, la mentalité, la façon d'être des hommes. Dans un climat chaud, on est plus enjoué. Dans un climat froid, on est un peu plus sérieux. Bon, vous voyez, bon, ça, c'est ça, l'idée. Et puis, la religion, elle va modeler un peu les mœurs, même. Elle gouverne les hommes au sens où elle a une influence sur le plan sociologique,
sinon. Mais c'est une élaboration. C'est une culture.
C'est ça. L'esprit général, c'est le produit d'une culture qui assemble tous ces facteurs. C'est-à-dire être français, vous voyez, par exemple, Montesquieu réfléchit, au fond, à ce qu'on appelle l'identité nationale. Mais il n'en fait pas une donnée héréditaire. C'est une construction, c'est une élaboration qui résulte d'une histoire et qui met en jeu plusieurs composantes, plusieurs facteurs. Il n'est jamais dans une théorie raciste, vous voyez. L'identité nationale, c'est pas une identité ethnique, on est français de souche, non, c'est pas ça du tout. Le français, c'est la construction d'une histoire, d'une manière d'être, une façon d'être. C'est
la langue aussi.
La langue, tout ça, effectivement. C'est ça qui est intéressant chez Montesquieu. Donc il a sa philosophie politique, vous voyez, commence par une réflexion générale sur les types de gouvernement. L'éducation qui leur convient, sur, la structure, le droit pénal qui caractérise tel type de gouvernement, etc., etc. Bon, ça, c'est toute la première partie de l'esprit des lois. Et puis, il y a une seconde partie, à partir de la théorie des climats, où il s'interroge sur ce qui explique la diversité des peuples et de leur mentalité. Et il articule toutes ces dimensions. C'est pour ça que je trouve que c'est une réflexion très intéressante. Voilà. Si je peux. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est L'intéressant, c'est de confronter les auteurs. La différence entre Montesquieu et Voltaire sur la question de l'histoire, enfin, sur la façon dont ils pensent la civilisation. Bien sûr. Voltaire est un peu plus jeune que Montesquieu. 5 ans de moins, je crois. Ben, il est plus facile à lire. Montesquieu est plus difficile. Plus difficile, hein, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'il est un peu elliptique, et puis parce qu'il fait des tas de références qu'on ne maîtrise pas. Et puis, les textes de Voltaire sont beaucoup plus faciles à lire, parce qu'on en suit assez facilement le cheminement.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que je le vis, tout ça. Puisque j'ai vu la moitié de ma vie en France, la moitié de ma vie aux États-Unis. Et je peux vous dire que tout ça s'applique,
ouais,
littéralement, hein, parce que la formation d'un pays, comme les États-Unis, la formation de la France, ça joue beaucoup sur la façon dont les personnes se
comportent. Et on peut dire que Montesquieu est un des premiers à s'intéresser à ça, vraiment, et en faire une théorie, pas seulement, il fait pas simplement des remarques comme ça, mais il s'intéresse beaucoup à ce qui fait que, justement, les sociétés sont différentes. Contrairement à ce qu'on lui a fait dire, parce qu'on a toujours dit Montesquieu était un anglophile, il admirait l'Angleterre et il dévalorisait la France. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Il fait pas, encore une fois, il admire beaucoup, effectivement, la constitution d'Angleterre. Il est très critique à l'égard de la monarchie absolue française, mais si on lit le livre 19, il y a une sorte d'éloge à la France qui est assez remarquable. Et il a une certaine critique à l'égard de la mentalité anglaise qui est très âpre, qui est assez amusante. Vous voyez, c'est très intéressant. Et il y a même des choses qui font sourire. Et à ce propos, puisque les Américains, effectivement, avaient fait de Montesquieu une référence de même. Les théories.
Oui, ça s'applique. Il y a 50 États.
Et puis les fédéralistes, c'était leur grand. Ils avaient deux grandes références, c'était Locke et Montesquieu, hein, les deux penseurs de référence des théoriciens fédéralistes, hein, c'est Madison, etc., tous ces gens-là. Montesquieu et. Voilà, ça c'est. Mais les Français sont restés beaucoup plus fidèles à Rousseau, qui est en même temps très proche de Montesquieu par certains aspects.
Parce que la formation des États-Unis est faite par les Anglais. Il y a la common law, par exemple, les lois qui changent avec le temps, avec l'espace, ce qu'on ne connaît pas.
Tout à fait. Et Tocqueville, qui est allé aux États-Unis, d'Amérique, est un disciple de Montesquieu. Disciple, oui. Donc, vous voyez, il y a. Et ces auteurs méritent une lecture attentive. Il faut vraiment entrer dans. Vous voyez, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que faut arrêter les lectures comme ça où on fait des petits extraits. Non, il faut entrer dans la pensée, dans l'argumentation de l'auteur. Il faut vraiment vivre avec sa pensée. Et c'est faisable. Mais si on se donne la peine, on entre dans sa pensée et on voit comment il élabore les problèmes. Et là, ça devient intéressant. Sinon, on a des idées sûres. Voilà ce qu'il a dit. Mais alors, si on pense comme ça, si on lit comme ça les auteurs, ça n'a aucun intérêt. Oui. C'est ça que je voudrais faire passer, en quelque sorte. D'autres questions ? Bah, écoutez, on va peut-être se quitter là. Et puis je vous souhaite à ce moment-là d'excellentes fêtes de fin d'année. N'abusez pas.